Cristal.
Cristal.
La story.
Je vous raconte l'histoire d'un des groupes les plus populaires de la scène musicale mondiale, qui nous a offert en plus de 30 ans d'existence des dizaines de hits comme Everybody Hurts ou Losing My Religion, R.E.M. Créé en 1979, c'est à l'origine un quatuor, devenu trio après le départ du batteur en 97. Avec bien sûr le chanteur charismatique Michael Stipe, investi aussi dans nombreuses causes humanitaires. Le groupe a influencé des formations rock, de Nirvana en passant par Radiohead jusqu'à Pearl Jam. Et c'est sans vraiment de raison connue que les membres de R.E.M. décident de se séparer en 2011, laissant derrière eux 15 albums en 30 années d'existence. Et ce soir, voici leur histoire. Direction le sud des États-Unis, en Géorgie. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Imaginez-vous à la fin des années 70, vous êtes dans un magasin de disques de la ville d'Athens. Vous vous baladez dans les rayons de ce magasin de disques, vous écoutez des vinyles cultes de Patti Smith. Groupe de rock Television ou du Velvet Underground. Là, un passionné de musique qui travaille dans ce magasin de disques vous conseille des pépites pour vos oreilles. Il s'appelle Peter Buck. Vous ne le savez pas encore, mais c'est le futur guitariste de R.E.M. qui bosse ici pour payer ses études. Et c'est d'ailleurs dans ce magasin de disques que Peter rencontre Michael Stipe en 1979. En fait, au départ, c'est un client, Michael, qui dépense son argent dans les vinyles. Et tous les deux découvrent qu'ils ont une passion commune. C'est la scène punk new-yorkaise. Et Michael Stipe, futur chanteur de R.E.M. donc, avoue qu'à cette époque, il achète tous les disques que Peter Buck se met de côté. Les deux nouveaux potes, Michael Stipe et Peter Buck, rencontrent ensuite deux étudiants de l'université de Géorgie, Mike Mills et Bill Berry, eux aussi complètement passionnés de musique, ils ont même un groupe depuis le lycée. Et ils forment leur quatuor, jouent pour la toute première fois ensemble sur scène le 5 avril 1980, c'est pendant un anniversaire d'un ami. Et en fait, le succès arrive très vite, la musique plaît, le groupe enchaîne plusieurs concerts, par contre, faut trouver un nom. Et là, c'est dans le dictionnaire et par hasard que le chanteur et parolier Michael Stipe choisit l'acronyme R.E.M. qui signifie Rapid Eye Movement. En français, c'est le mouvement oculaire rapide qui correspond à l'activité intense des yeux quand on rêve la nuit en dormant. R.E.M. Là, c'est le début des tournées amateurs pendant près de 5 ans. Alors, fini l'école, faut se concentrer sur l'avenir du groupe, qui, grâce au premier concert, rôde un début de répertoire. Et ça marche, le public est séduit. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui tombe complètement fan de R.E.M. pendant un live en Caroline du Nord. C'est un disquaire, il s'appelle Jefferson Holt, et il est tellement impressionné par le concert donné par R.E.M. dans sa ville de Chapel Hill qu'il déménage à Athens, la ville du groupe, pour devenir son manager. Ensuite, les concerts s'enchaînent, R.E.M. sillonne les routes du sud des États-Unis dans un van bleu. Le manager est au volant, le groupe enchaîne les concerts, avec 2 dollars par jour pour la nourriture pendant la tournée. Michael Stipe raconte à propos des débuts de R.E.M. que...
C'était tout ou rien, à chaque chanson, chaque fois que tu ouvrais la bouche, ça devait être tout ce que tu pouvais donner.
Thank you. Good night. Good night.
R.E.M. attire des foules de plus en plus importantes et s'enferme dans le studio de l'américain Mitch Easter en Caroline du Nord au Drive-In Studio. C'est pour enregistrer un premier single qui s'appelle Radio Free Europe en 1981. Et comme le public, de plus en plus de radios universitaires américaines sont séduites. Le pressage final du single est de 1000 exemplaires seulement et les 1000 exemplaires se sont vite épuisés. Et les critiques positives fusent. Le titre est cité parmi les 10 meilleurs singles de l'année 81 par le New York Times. Ce soir, c'est l'occasion de partir en live. On profite de la story de R.E.M. pour écouter leur grand succès comme Losing My Religion en live.
I thought that I heard you.
du bon live qui fait du bien, le zine My Religion de R.E.M. enregistré en 1997. Et le single original est bien sûr sorti en 91, extrait de l'album Out of Time. Et à l'époque, c'est le guitariste Peter Buck qui compose le riff principal et le refrain de cette chanson en regardant tranquillement la télévision et avec sa mandoline qu'il vient juste d'acheter. En fait, à la base, il tente d'apprendre simplement à en jouer et finit par s'enregistrer en s'entraînant.
Lorsque j'ai réécouté, le lendemain, le début n'était vraiment que moi apprenant à jouer de la mandoline. Puis il y a eu ce qui allait devenir Losing My Religion et puis encore moi apprenant à jouer de la mandoline.
Pendant l'enregistrement en studio, la voix de Michael Stipe, le chanteur de R.E.M. est enregistrée en une seule fois. Lui, il chante l'histoire de quelqu'un qui désire quelqu'un d'autre. C'est un amour non réciproque, Losing My Religion, qui fait le tour de la planète et devient le titre le plus connu de R.E.M. aux États-Unis. Il reste dans les charts pendant 21 semaines. Et la suite de la story de R.E.M. c'est dans un instant sur Crystal. Ne bougez pas.
Crystal.
Crystal.
La story.
Crystal.
La story.
Le premier single de R.E.M. c'est donc Radio Free Europe qui sort en 1981. Et je vous le diffuse en intégralité dans un instant. D'ailleurs, cherchez bien chez vous, on ne sait jamais, vous avez peut-être l'un des 1000 exemplaires seulement qui sont pressés à l'époque. C'est collector, il est coté un minimum de $150. Bon. Vérifiez bien. En 1981, le succès est tel que le titre est aussi élu single indépendant de l'année par le célèbre magazine Village Voice. Donc R.E.M. retourne en studio quelques semaines plus tard pour enregistrer un EP, Chronic Town. Il sort en 1982 sur le label IRS de Miles Copeland. C'est le frère du batteur de Police qui vient donc de signer R.E.M. Alors même si le groupe n'est pas vraiment content du son du disque quand il sort, le public, lui, et donc les premiers fans, le trouvent très bon. C'est au final une réussite. Les arpèges de guitare de Peter Buck ou le chant de Michael Stipe marquent les esprits. Le groupe s'affirme, impose une bonne personnalité et offre en 1983 un tout premier album, Murmur. Le succès est immédiat, il est élu disque de l'année par le magazine Rolling Stone. Rien que ça, voici Radio Free Europe dans la story de R.E.M. Le premier succès de R.E.M., sorti en 1981 en single, puis sur le premier album du groupe en 83, Murmur. Élu disque de l'année d'ailleurs par le magazine Rolling Stone, et il résonne pour les amateurs comme une véritable découverte.
Crystal.
La story.
Je ne démarre jamais l'écriture d'une chanson avec un ton ou un thème spécifique en tête. Quand j'arrête mon cerveau, c'est l'inconscient qui parle. Si je laisse cette voix faire le travail, ce qui en sort me surprend plus que n'importe qui d'autre.
C'est ce que le chanteur et parolier Michael Stipe explique en interview. Le côté mystérieux et la profondeur des musiques de R.E.M., c'est grâce à sa façon de chanter. Son chant est parfois inintelligible et c'est grâce à son écriture aussi. Et puis son collègue d'R.E.M., le bassiste Mac Mills, qui tient une grande part dans l'aspect mélodique de la musique qu'on aime dans les compos du groupe. Puis les arpèges de guitare de Peter Buck qui séduisent, comme le mixage de ce disque Murmur, qui est très important dans cette réussite artistique, avec des vocaux en retrait, une basse prééminente. R.E.M. zappe les solos de guitare, zappe les synthés. En fait, le groupe ne fait pas comme les autres formations rock de l'époque. On pense aux Stones ou Police qui cartonnent au même moment. Les critiques du premier album Murmur sont bonnes. Par contre, le disque, lui, se vend à 200 000 exemplaires seulement. L'aventure ne fait que commencer et elle continue pour R.E.M. avec un deuxième album, Reckoning, en 1984. C'est d'ailleurs pour présenter le premier extrait du disque que R.E.M. fait sa toute première apparition à la télé américaine. C'est dans le Late Night with David Letterman, le fameux quelques mois avant la sortie de Reckoning.
From New York. Land of trout streams and apple orchards. It's late night with David Letterman. Tonight, musicians, R.E.M.
We'll be back, folks, with R.E.M.
Les critiques sont encore positives concernant ce deuxième album, comme le premier de R.E.M. Les ventes sont meilleures que le premier, mais ne décollent pas vraiment, ce qui n'empêche absolument pas R.E.M. de se produire sur scène, comme en Europe. C'est la première tournée européenne de R.E.M. qui commence fin 83 et qui enchaîne sur un troisième album, Fables of the Reconstruction, 2 ans plus tard. C'est une sorte de tournant, parce qu'en fait c'est la première fois depuis les débuts du groupe que Mitch Easter ne participe pas à la production. C'est Joe Boyd qui a bossé sur les disques de Pink Floyd, de Soft Machine, Richard Thompson aussi qui s'en occupe. Et pendant les enregistrements à Londres, R.E.M. vit ses premières véritables tensions, dues notamment et a priori au mal du pays et au triste hiver londonien. Le groupe est même au bord de l'implosion. Mais son troisième album sombre fonctionne en Amérique. Il devient même la plus grosse vente du label IRS dans le pays. Voici Drive 8 de R.E.M. en live. We'll be right back. REM en live avec Drive 8, et la version studio, version originale, est-elle extraite du troisième album Fables of the Reconstruction sorti en 83.
Crystal.
La story.
Au milieu des années 80, ça y est, REM est peu à peu et enfin diffusé sur les radios qu'on appelle Top 40 et donc grand public. Il a fallu attendre 4 albums, et le quatrième, justement, c'est Life is Rich Pageant, qui sort en 1986. Et là, eh bien, on sent que le groupe veut accroître sa popularité. Les paroles de Michael Stipe sont mises un peu plus en avant, le disque est en tout cas plus accessible. Et les ventes sont meilleures, c'est d'ailleurs le premier album de REM à être certifié disque d'or aux États-Unis, avec près de 500 000 exemplaires vendus. Leur maison disque IRS continue de croire en REM. Dévoile en 1987 une compile de titres rares, inédits, qui s'appelle Dead Letter Office, avant que le groupe ne sorte un cinquième album, Document, produit par Scott Litz, qui devient d'ailleurs le producteur des 5 albums suivants du groupe. C'est la première fois qu'un album de REM contient des chansons ouvertement politiques, des titres en réaction à l'environnement politique conservateur des années 80 sous la présidence de Ronald Reagan. Et avec ce disque, Document, REM commence sa grande et très belle ascension. C'est le premier album du groupe à se vendre à plus d'un million d'exemplaires, et le magazine Rolling Stone déclare REM meilleur groupe de rock'n'roll américain en couverture en décembre 87. REM reste tout de même frustré à cause de la mauvaise distribution de ses albums en dehors des États-Unis. Alors, le groupe ne renouvelle pas son contrat chez sa maison disque IRS et signe avec la major Warner Bros. Records, avec la sortie d'un nouvel album, le sixième, Green. 4 millions d'exemplaires se vendent dans le monde. Et la tournée qui suit est elle aussi un succès. En plus, REM se lance dans une énorme tournée qui est techniquement complexe, avec des projections de diapos, de films sur scène. Je rappelle qu'on est à la fin des années 80. Mais avançons un peu. Après une pause, il faut attendre l'année 91 pour retrouver REM, qui revient en force avec l'album Out of Time, le fameux, sur lequel est gravé Losing My Religion, qu'on a écouté en live en début de cette story, ce hit planétaire qui fait définitivement basculer le groupe dans la catégorie de superstar du rock. Et puis il y a aussi Shiny Happy People, avec Kate Pearson des B-52s, groupe originaire de Géorgie, d'Athens, comme REM. Et là, certains se disent, pourvu qu'ils diffusent. Eh bien, très bonne idée. We'll be right back. Shiny Happy People de REM. Le titre de la chanson fait référence à la propagande chinoise qui utilisait le slogan Shiny Happy People Holding Hands. Et ce morceau de REM sort 2 ans après la manifestation de la place Tiananmen.
Crystal.
La story.
En 1991, l'album Out of Time, le 7e de REM, se place en tête des charts en Angleterre et aux États-Unis, où il se vend à plus de 4 millions d'exemplaires cette année-là. Et pourtant, pas de tournée. Mais quelques shows promo, comme un marquant, le fameux MTV Unplugged. Out of Time offre à REM 7 nominations pendant les Grammy Awards de l'année 92. C'est quand même le plus grand nombre de nominations pour un seul artiste cette année-là. Et REM en remporte 3. Un Grammy pour le meilleur album de musique alternative et 2 pour le single Losing My Religion, soit le meilleur clip vidéo et la meilleure performance pop par un duo ou groupe avec chant. L'année 92 est aussi marquée par la sortie du 8e album de REM, Automatic for the People, avec un petit côté folk country rock. Bono du U2 le qualifie d'ailleurs de plus grand disque de country jamais fait. 6 singles sont extraits de cet album. 6, c'est un record pour un album de REM, comme la fameuse chanson. C'est d'ailleurs l'ancien bassiste de Led Zeppelin, John Paul Jones, qui compose les arrangements de cordes pour Everybody Hurts, entre autres. Et côté texte, une bonne partie de la chanson est écrite par le batteur de REM, Bill Berry, et les paroles sont fortes. C'est l'une des premières chansons-messages du groupe. Elle s'adresse à tous les ados qui se sentent mal, qui doutent, qui sont inquiets de l'avenir. Et un peu plus tard, en 95, les paroles sont reprises par Samaritans, l'équivalent de SOS Amitié en Angleterre. Elles sont reprises pour illustrer une de leurs campagnes, alors que le taux de suicide chez les jeunes augmente considérablement au Royaume-Uni à cette période. Le message de cette chanson, c'est « Vous n'êtes pas seul ». Voici Everybody Hurts de REM en live.
Yours alone.
Everybody Hurts de REM, extrait de l'album Live de 2007, et la version originale est sortie sur l'album Automatic for the People en 1992.
Crystal.
La story.
Ce huitième album de REM, c'est un énorme succès mondial avec, écoutez bien, près de 10 millions d'albums vendus. Mais toujours pas de tournée, hein, comme après Out of Time. Et les fans sont inquiets, en plus de la santé du chanteur Michael Stipe, maigre et chauve. Certains pensent même qu'il va mourir, mais les rumeurs sont démenties. Nouveau succès pour REM suite à la sortie du 9e album Monster en 94, au son plus proche du rock que sur les 10 précédents, avec des influences glam rock et grunge. Et enfin, c'est le retour du groupe sur scène en tournée. Sauf qu'en mars 1995, l'aventure vire au cauchemar. Pendant un concert en Suisse à Lausanne et devant 10 000 personnes, le batteur Bill Berry s'effondre, victime d'une rupture d'anévrisme. Il se fait opérer. REM ne veut pas lui trouver un remplaçant, la tournée mondiale est interrompue avant de reprendre près de 2 mois plus tard. Mais le groupe apparaît fragilisé par ce drame, puis Mike Mills et Michael Stipe sont à leur tour victimes de soucis de santé. REM re-signe tout de même avec Warner Bros. Records en 96, et c'est un énorme contrat qui est signé 80 millions de dollars, le plus gros de l'industrie musicale de l'époque. L'album New Adventures in Hi-Fi se vend à 5 millions d'exemplaires dans le monde, et la tendance du succès commercial du groupe commence un peu à s'inverser. C'est aussi le dernier album de REM sur lequel figure le membre fondateur et batteur Bill Berry, qui quitte le groupe de manière amicale l'année suivante en 97. Mais la story de REM n'est pas terminée. La suite, c'est dans un instant sur Crystal, avec du live bien sûr. Ne bougez pas.
Crystal.
La story.
Merci de choisir Crystal le dimanche soir et bienvenue dans la dernière partie de la story du groupe REM.
Crystal.
La story.
Depuis sa création en 1979 et jusqu'au milieu des années 90, REM séduit ses fans à travers le monde et inspire de nombreux groupes comme Radiohead ou Nirvana. D'ailleurs, le leader de REM, Michael Stipe, est le parrain de Frances Bean, la fille de Kurt Cobain et de Courtney Love. Alors pendant un moment, début des années 90, et peut-être vous d'ailleurs, les fans pensaient peut-être pouvoir découvrir un jour une collaboration entre REM et Nirvana. En réalité, et pour reprendre une interview donnée par le leader de REM, Michael Stipe, pour lui, c'était un prétexte pour tenter de venir en aide à Kurt Cobain. Il explique au magazine américain Interview qu'il a fait ça pour essayer de lui sauver la vie et que cette idée de collaboration, c'était juste un prétexte pour l'approcher.
Il était vraiment dans un sale état. Je le connaissais bien, lui, sa fille. Courtney Love a même habité chez moi. J'ai contacté Kurt avec ce projet dans l'idée d'empêcher ce qui est arrivé.
Explique Michael Stipe de REM. Kurt Cobain s'est suicidé le 5 avril 1994. Le titre « Let Me In » de REM est écrit en hommage à Kurt Cobain. Un coffret de luxe que REM a sorti en 2019, c'était pour fêter cette année-là les 25 ans de l'album Monster. Là, il y a 5 CD, un Blu-ray, avec des mix inédits, des démos, du live aussi, un live complet enregistré à Chicago en 95. Il y a aussi un documentaire à voir, un doc d'une heure et demie sur la tournée qui a suivi la sortie de Monster, et des clips qui en sont issus comme... En parlant de Monster, sorti à l'origine en 94, faut tout de même attendre une dizaine d'années pour revoir REM sur scène après le Monster Tour. En 2004, REM tourne avec Pearl Jam ou Bruce Springsteen et repart en tournée mondiale l'année suivante, tout en participant au concert du Live 8 à Londres. Du live, REM nous en offre à la maison puisque le groupe sort son premier album live avec des extraits d'un concert à Dublin en 2005. Vous en avez entendu certains dans cette story. Au début de l'année 2008, REM dévoile son quatrième album studio depuis le départ du batteur Bill Berry, c'est Accelerate. Et vous l'avez peut-être chez vous, il est assez court ce disque, il ne dure que 34 minutes et 39 secondes. Par contre, il marque un grand retour aux sources. On repense aussi à l'album Monster de 94 quand on l'écoute. REM revient sur le devant de la scène avec un son beaucoup plus rock. L'album est produit par Jack Knifley qui a bossé avec Snow Patrol, Weezer, Block Party ou U2. Et c'est même The Edge de U2 qui insiste et qui fait que REM choisit de bosser avec Jack Knifley. Voici Supernatural, Super Serious. Everybody here comes from somewhere that they would just as soon forget in disguise. At the summer camp where you volunteer, no one saw your face, no one saw your fear. If that apparition, it just appeared, took you up and away from the space and sheer humiliation of your teenage station. Nobody cares, no one remembers, and nobody cares. And you cried and you cried. He's alive, he's alive. You cried. If you cried. Vous écoutez la story de REM ce soir, story qui s'achève sur la fin du groupe et donc d'une aventure qui a duré plus de 30 ans.
Crystal.
La story.
Le 21 septembre 2011, REM annonce sur son site internet qu'il se sépare, et ce quelques semaines seulement après la sortie du dernier album Collapse Into Now. Il nous offre tout de même une dernière compilation qui couvre l'ensemble de la carrière de REM et trois ultimes chansons inédites enregistrées en juillet 2011 dans la ville du groupe en Géorgie à Athens. Le groupe explique qu'ils partent, je cite, avec un immense sentiment de gratitude, d'accomplissement et d'étonnement face à tout ce que nous avons accompli. À tous ceux qui ont un jour été touchés par notre musique, merci de nous avoir écoutés. Pop, folk, rock, avec quelques touches, parfois électro, country, voire grunge. Oui, REM, c'était et ça restera tout ça à la fois. C'était la story du groupe américain, que vous pouvez réécouter en intégralité avec les précédentes émissions en podcast sur maradiocristal.com. C'était Lucas, merci de votre fidélité. Je vous retrouve dimanche prochain, dès 18h, pour une nouvelle histoire musicale sur Crystal. Belle semaine!
This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Fire!
Crystal.
La story.